Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington pour cette édition de 19h30. On est jeudi 8 mars 2018 au sommaire. Rex Tillerson poursuit sa tournée en Afrique. À Addis Abeba, le secrétaire d'État américain a évoqué les questions de sécurité, de développement, corruption et des conflits. La CPI a rejeté l'appel de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 an de prison pour subornation de témoins. Le président américain Donald Trump promet de faire preuve de flexibilité avec les vrais amis des États-Unis dans l'imposition annoncée de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Et en partie magazine, la journée internationale de la femme célébrée aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vu la naissance d'un syndicat composé uniquement de femmes. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré ce jeudi à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et les autorités éthiopiennes. La sécurité, le commerce, le développement, la corruption et les conflits sur le continent étaient au cœur des débats. Le point avec Getachew Tedla à Addis Abeba.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson a revu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, la situation des conflits dans la sous-région de la Corne de l'Afrique et surtout la stratégie comment appuyer les missions de paix devant les exactions d'Al-Shabaab. S'agissant d'Éthiopie, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Sheraton, le secrétaire a souligné « It is important that the country move on past. Nous avons la conviction que le pays s'en sortira le plus tôt possible de l'état d'urgence. Nous reconnaissons cependant les mesures prises en libérant bon nombre de prisonniers politiques. C'est déjà un grand pas pour aller de l'avant. Nous espérons que le gouvernement ouvrira la porte à ses citoyens pour que ceux-ci puissent exprimer librement leurs idées sans contrainte. C'est ce que nous, de notre côté, appuyons toute initiative allant dans ce sens. Getachew Tedla, Addis Abeba pour la Voix d'Amérique.
Rex Tillerson doit ensuite se rendre à Djibouti, qui abrite une importante base militaire américaine. Idriss Afal a joint le premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil.
Écoutez, il y aura une discussion avec les chefs de l'État, avec les affaires étrangères. Nous avons mené un certain nombre de discussions d'intérêts communs entre les États-Unis et la République Djibouti.
Intérêts communs, la lutte contre les Shabab somaliens,
la piraterie, le terrorisme et puis aussi le développement de la République de Djibouti par des investissements américains. Nous attendons à ce que les Américains aussi, de leur côté, fassent aussi un geste pour essayer aussi d'être présents dans l'économie de Djibouti.
C'était le premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil que vous pourrez entendre en longueur dans notre édition du matin. Le collectif catholique à l'origine des marches anti-Kabila soutient l'appel à la grève générale de demain en mémoire aux victimes de la répression des récentes manifestations en République démocratique du Congo. Le CLC demande à la population congolaise d'observer cette consigne patriotique selon les termes d'un communiqué. Deux hommes ont été tués lors de cette troisième marche des catholiques. L'ex-chef de guerre et vice-président de RDC, Jean-Pierre Bemba, a perdu son procès en appel pour crime de guerre devant la CPI. La chambre d'appel a ordonné de nouvelles condamnations. Éric Manévetiza.
Les 5 juges de la chambre d'appel ont rejeté les 12 motifs d'appel de la défense de M. Bemba. Ils ont par la suite ordonné la révision en chambre de première instance des peines prononcées dans l'affaire de subornation de témoins en octobre 2016. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins qu'il avait présentés pour fausses preuves et sollicitation de faux témoignages. Il avait écopé 1 an de prison et de 300 000 euros d'amende. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait également fait appel et requis 5 ans de prison. Surnommé le Mobutu miniature, M. Bemba n'a pas non plus eu gain de cause dans un autre appel contre sa condamnation en juin 2016 à 18 ans de prison pour une vague de meurtres et de viols commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Il avait été reconnu coupable en vertu du principe de la responsabilité du commandant de sa milice, le MLC. La défense avait accusé les juges de manque d'impartialité pendant une audience publique en janvier.
Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, s'est entretenu pour la première fois depuis la présidentielle de 2016 avec des proches du principal opposant, Jean Ping. Cette réunion s'est tenue en vue des législatives prévues fin avril. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a déclaré prendre très au sérieux les accusations portées par un évêque sur des abus sexuels commis par des casques bleus dans le sud-est du pays. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara a annoncé que le projet de parti unifié pour diriger le pays sera bientôt une réalité. Cependant, son grand allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI, exclut cette idée avant les prochaines élections de 2020. Le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ancien président Henri Konan Bédié, a affirmé qu'il présenterait son propre candidat en 2020. Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition était hier dans la capitale ghanéenne pour échanger avec le facilitateur du dialogue politique togolais. Au cours de la rencontre, le président ghanéen a suggéré à la coalition de suspendre ses manifestations prévues du 13 au 17 mars. Le point avec Kay Lawson à Lomé.
La coalition des 14 n'annule pas ses manifestations prévues pour la semaine prochaine, mais elle les reporte dans la semaine du 19 mars. C'est ce qu'a indiqué la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamagbo-Johnson, de retour d'Accra, où le groupe des 14 a rencontré le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Selon les propos de la coordinatrice, le président ghanéen les a suivis sur la poursuite du processus électoral par le gouvernement, ce qui serait contraire à l'esprit des engagements pris. On ne peut pas accepter une préparation unilatérale des élections, a-t-elle dit, rapportant les propos de Nana Akufo-Addo, qui a demandé un moratoire d'une semaine pour consulter la partie adverse. La coalition a relevé que la proposition du facilitateur est judicieuse, d'autant qu'aucune interdiction de manifestation ne leur est imposée. L'opposition dit avoir jugé utile de faire cette concession pour faciliter la tâche au président ghanéen et aider à trouver une solution pour la crise que traverse le pays. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le président Roch Kabore a reçu des centaines de femmes à l'occasion de cette célébration du 8 mars. Il leur a promis que lors du prochain remaniement ministériel, 30% des ministres seront des femmes. C'est une promesse qui date depuis la transition de 2015.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump assouplit sa position sur les taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium. Il promet de faire preuve de flexibilité avec ceux qu'il appelle les vrais amis des États-Unis. John Lyndon.
Nous devons protéger et bâtir nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération avec ceux qui sont des vrais amis et nous traitent de manière équitable à la fois dans le commerce et la défense, a tweeté le président Trump ce matin. Une annonce qui sonne comme un assouplissement de sa position alors qu'il rencontre aujourd'hui les responsables du secteur. Le président républicain a annoncé il y a une semaine son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium, ravivant le spectre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et nombre de ses alliés comme le Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier des États-Unis. Face à la levée de boucliers dans le monde entier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a fait savoir mercredi qu'il pourrait y avoir des dérogations pour certains pays. Cette semaine, le conseiller économique du président, opposé à cette nouvelle taxe, a démissionné.
Les États-Unis ont approuvé la vente au Qatar d'équipements pour moderniser le centre d'opération de ses forces aériennes, saluant le rôle joué par l'Émirat pour la stabilité de la région. Malgré la crise diplomatique qui agite le Golfe, le département d'État a donné son feu vert à un plan qatari visant à renforcer les capacités technologiques et logistiques du centre d'opération de la force aérienne du Qatar pour un montant de 197 millions de dollars. Les députés israéliens ont adopté une loi permettant à la police de détenir indéfiniment les corps de Palestiniens auteurs d'attentats au lieu de les restituer à leurs familles. Le texte a été approuvé par 48 voix, 10 contre. Les députés ont aussi adopté une autre loi permettant au ministre de l'Intérieur de déchoir des Palestiniens de Jérusalem-Est de leur nationalité, de leur statut de résident permanent, s'ils sont impliqués dans des actes de terrorisme. Et puis la ville irakienne de Mossoul, reprise en juillet aux djihadistes, a célébré la journée des droits des femmes en tenant le premier marathon féminin de son histoire. Environ 300 femmes en t-shirt blanc étaient sur la ligne de départ. Située dans le nord du pays, la ville de Mossoul a été en 2014 la capitale irakienne du califat autoproclamé du groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Diko.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promis un dialogue constructif avec les multinationales qui s'inquiètent de la promulgation du nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt. Lors d'une rencontre ayant duré 7 heures, le président Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers ont convenu de traiter au cas par cas les problèmes suscités par la révision du code très libéral de 2002. Chaque année, un total de 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est exporté de la RDC. La Sénégalaise des eaux, la SDE, vient d'annoncer le renforcement de l'alimentation en eau potable de Medina Gounas. Cette initiative fait suite à l'incendie survenu lors de l'édition 2017 du Daaka, ou retraite spirituelle de Medina Gounas, l'un des hauts lieux musulmans au Sénégal. Le sinistre avait été fortement aggravé par les difficultés d'approvisionnement en eau. Les travaux financés par la SDE ont coûté 200 millions de francs CFA. En Tunisie, la banque centrale, la BCT, se dit inquiète d'une situation économique marquée par des indicateurs effrayants et défend sa récente décision d'augmenter son taux directeur. Le taux d'inflation est resté longtemps entre 2 à 3% pour passer maintenant à plus de 7,1%, selon le nouveau gouverneur de la BCT, Marwan El Abbassi.
Page des sports, vous l'avez deviné, Yacouba Ouédraogo, rebonsoir.
Rebonsoir Abdourahman.
Huitième de finale, allez, de l'Europa League ce soir.
Bonne opération pour le moment pour les Gunners qui mènent 2-0 devant le Milan AC. Les buts sont signés, Mkhitaryan à la 15e minute et Ramsey juste avant la pause. L'Atlético Madrid tient le bon bout de son match face au Lokomotiv Moscou, 2-0. 2-1 pour Red Bull Salzbourg dans le chaudron du Borussia Dortmund. L'Olympique Lyonnais mène 1-0 à Moscou devant le CSKA et Lyon. À suivre un peu plus tard, Marseille, Athletic Bilbao, Lazio de Rome, Dynamo de Kiev, Leipzig, Zenit Saint-Pétersbourg et le Sporting de Lisbonne, Plzeň.
On connaît les différents groupes de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Rennes en France. Le Ghana et le Nigeria, représentants de l'Afrique, sont fixés sur leur sort. Logés dans le groupe A, les Black Princesses du Ghana seront confrontés au premier tour au pays hôte, la France, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Dans le groupe B, on retrouve la Corée du Nord, tenante du titre, l'Angleterre, le Mexique et le Brésil. Le groupe C comprend les États-Unis, le Japon, le Paraguay et l'Espagne. Et les Falconettes du Nigeria se retrouveront dans le groupe D avec Haïti, la Chine et l'Allemagne.
En Italie, Florence dit adieu à David Astori.
Florence a rendu hommage aujourd'hui un dernier à David Astori, décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Des funérailles auxquelles ont assisté près de 10 000 personnes devant la basilique Santa Croce. Auprès de la famille et des proches d'Astori, il y avait Barisi, Totti, Van Basten, Buffon, Pjanic et N'Golan. Le capitaine de la Fiorentina sera inhumé près de Bergame, d'où il est originaire et où vivent ses parents.
NBA pour terminer, Toronto est le premier qualifié pour les playoffs 2018.
Les Raptors de Toronto se sont rassurés après leur succès 121 à 119 après prolongation à Détroit. Avec 47 victoires en 64 matchs, ils sont au pire assurés de terminer à la 8e place de la conférence Est. Même si l'un devait perdre leurs 18 derniers matchs de la saison régulière, un scénario hautement impossible.
Voilà, merci beaucoup Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a entamé par Addis Abeba en Éthiopie sa tournée africaine. Il a rencontré ce jeudi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a appelé à tourner la page sur les propos injurieux contre le président, contre le continent plutôt, qu'aurait tenu le président Trump. Delidico fait le point.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors d'une rencontre d'une heure au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. La visite de M. Tillerson s'inscrit dans le contexte de la polémique sur les propos injurieux qu'aurait utilisé le président Donald Trump pour qualifier des pays africains lors d'une réunion à huis clos à la mi-janvier. En bon diplomate, Rex Tillerson a dit de sa visite.
Le but de mon voyage en Afrique est d'écouter. Je crois qu'il est très important que nous écoutions pour comprendre les priorités des pays africains et voir à quel niveau ces priorités s'alignent avec nos principaux centres d'intérêt. Je pense qu'il est évident que nous ayons plusieurs objectifs communs. Personne ne devrait s'en étonner.
La tournée africaine de M. Tillerson est axée sur le contre-terrorisme, la promotion de la paix, la bonne gouvernance, le commerce et les investissements.
L'Union africaine est véritablement une force bienveillante. Nous sommes très reconnaissants envers cette institution qui joue un rôle crucial dans la recherche de solutions pour aider le continent à créer plus de sécurité, un meilleur système de santé, faire avancer la stabilité politique et le développement économique.
Lors de cette visite, le secrétaire d'État a tenu à mettre en garde les pays africains contre le risque de dépendance aux investissements chinois et précisé que les États-Unis ne tentent en aucune façon de garder hors d'Afrique les dollars investis par la Chine. Cette fin de semaine, Rex Tillerson se rend à Djibouti et au Kenya. La semaine prochaine, il ira au Tchad et au Nigeria.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burundi, poursuite des efforts visant à faire la lumière sur le passé de l'indépendance en 62 jusqu'en l'année 2008. Des agents sillonnent les 18 provinces du pays pour recueillir les témoignages. Certains habitants y trouvent un intérêt pour connaître la vérité et témoignent. D'autres disent non. C'est un reportage de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Au chef-lieu de la commune de la province de Bouvanza, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bujumbura, des habitants arrivent discrètement pour faire leur déposition sur ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque les mouvements rebelles affrontaient l'armée burundaise. Cette dernière, qualifiée de majoritairement Tutsi, combattait à l'époque les différents mouvements rebelles essentiellement Hutu, deux des trois composantes sociales du pays. Ce jeune homme affirme que ceux qui ont perdu les leurs doivent être indemnisés.
La guerre a amené beaucoup de choses malheureuses. Si vous allez voir les autorités, dites-leur de nous indemniser car nous avons perdu beaucoup de biens matériels et humains.
Tous les jours, pendant deux semaines, au moins 24 personnes ont fait leur déposition devant les agents de collecte installés sur toutes les collines de la province de Bouvanza. Pour cet homme Tutsi, père de 7 enfants, il ne voit pas l'importance d'aller témoigner.
Je figurais sur la liste des gens qui devaient être tués. Tous les autres 90 personnes avec lesquelles j'étais ont été massacrées. Je suis le seul survivant. J'ai quitté notre colline le soir à cause du froid, plein de sang. Je n'ai vu personne parmi les bourreaux. Quelle est cette personne à qui je peux pardonner? Car c'était la nuit et il faisait très froid. Je vais témoigner quoi? Devant qui? Je ne vois aucun intérêt d'aller faire ma déposition.
La commission Vérité et Réconciliation a du pain sur la planche. Cette maman Hutu qui a perdu les siens en 1994 se souvient de cette horrible époque et remercie les autorités si les personnes qui ont perdu les leurs vont être indemnisées.
J'ai passé deux nuits dans le sang alors que les autres avaient été tués au marché de Kizuka.
J'ai vécu au Rwanda pendant 3 ans. Si on a quelque chose comme indemnisation, tant mieux, car à l'époque, j'ai tout perdu, même mon bétail. Les rebelles ont pris toutes les vaches, mais les personnes ont été tuées par l'armée gouvernementale.
Armée gouvernementale ou mouvements armés sont pointés du doigt par la population à l'époque pour avoir commis certaines atrocités innommables. Pour ce vieux octogénaire, la balle est dans le camp des politiques.
Cette maladie à connotation ethnique existe chez 6 différents présidents, Michel Mitombero, Bagada, Boyoï, même aujourd'hui. Cette maladie vient des autorités politiques, elles seules. Que ces autorités nous enseignent à nous aimer fraternellement, qu'elles nous éduquent à la paix pour que nous, pauvres paysans, puissions vivre en paix.
Une de ces 3 commissaires de la Commission Vérité et Réconciliation, Clotilde Vizimana, affirme que les Burundais viennent nombreux faire leurs dépositions dans le calme et la sérénité. Les dépositions qui ont commencé en avril 2017 sont conservées sous des fiches individuelles. Elles se termineront en mai prochain, juste à la veille du référendum du oui ou du non de la nouvelle constitution. Mais la CVR affirme qu'elle a seulement les moyens financiers pour les travaux de requête des dépositions pour 4 des 5 provinces restantes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Des femmes issues de centrales syndicales ivoiriennes ont créé leur syndicat pour que leurs préoccupations soient prises en compte. 4000 femmes ont déjà adhéré au réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire, présidé par Marietou Guéo, ex-secrétaire générale adjointe de l'UGTCI. Alors Nathalie Barge a joint la marraine du réseau, Salimata Porqué, une figure du féminisme en Afrique.
Cette organisation prend en compte les femmes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Les femmes des marchés, les femmes cultivatrices, elles sont toutes membres de ce syndicat. On a choisi comme thème la couverture d'assurance maladie parce qu'en Côte d'Ivoire, il est mis en place une couverture assurance maladie, mais l'on pense que c'est pour un certain niveau. Alors donc qu'avec les femmes syndicalistes, les explications sont données à tout le monde et actuellement, elles sont en train de mettre des fédérations dans toutes les régions pour que les femmes soient informées et surtout comment défendre les droits des femmes du milieu rural en matière de possession des terres. Les femmes cultivent, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires terriens. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous battre pour qu'une loi soit votée pour que les femmes puissent être propriétaires terriens? Et jusque-là, rien n'est encore fait. Avec ce syndicat, nous allons booster cela.
Alors, comment réagissent les autres syndicats?
Les hommes syndicalistes, eh bien, ils ont peur. Ils pensent que les femmes veulent faire de l'exclusion, leur arracher le pouvoir. En fait, non. Vous avez dû apprendre que dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise entre les syndicats et le gouvernement. Pendant 3 mois, les syndicalistes de tous bords ont fait une grève. Et c'est nous qui avons réglé ce problème. Nous étions environ 5-6 et nous avons rencontré donc les différents groupes de syndicats. Et ensuite, j'ai abordé le chef de l'État qui se trouvait à une cérémonie. Je suis allée droit vers lui. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je viens vous signifier que nous, les femmes, nous sommes auto-saisies du problème des syndicalistes. Il m'a dit, Salimata, tu es sûr que tu peux régler ce problème? J'ai dit, oui, Monsieur le Président. Et ensuite, il m'a ramené vers le Premier ministre qui nous a reçus et nous sommes retournés vers les syndicalistes pour accepter de dialoguer avec le gouvernement. Et comme Marietou connaît bien le système des syndicalistes, elle connaît leurs règles, donc elle nous a mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'il fallait aborder comme problème? Comment il fallait les amener à la raison? Et ça marchait. Et finalement, les syndicalistes, leur président nous a demandé d'aller intervenir pour eux auprès du président de la République. Alors Marietou leur a demandé, vous mandatez la présidente ou bien qu'elle se lève d'elle-même? Ils disent non, nous la mandatons. Maman, nous vous mandatons d'aller vraiment faire le plaidoyer auprès du président de la République pour qu'on puisse trouver une solution. Et la solution a été trouvée, la grève s'est arrêtée.
Salimata Porqué, présidente de l'organisation panafricaine Plateforme d'éveil électoral et des femmes et des jeunes, jointe à Abidjan.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Kinda Mulenda Mbongutika Manguvu, Adrenaline Switch, encore. Kichwa Kisaide Kamaungwa, Mad Makema, Ravi Servi, Autorité Vital Kuzu. Président Mario Kawele, Rocky, grand camion, Michel Baraka.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin qui l'a mise en onde. À la console, il y avait Wagner Robert. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département d'État a classé Ansarul Islam comme groupe terroriste international expressément désigné. À cette désignation impose des strictes sanctions aux ressortissants étrangers ayant commis des actes de terrorisme ou posant un risque considérable d'en commettre et qui menacent la sécurité des ressortissants américains, la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis. Cette désignation vise à empêcher Ansarul Islam d'avoir accès à des ressources qui lui permettraient de planifier et de commettre de nouvelles attaques terroristes, entre autres conséquences, tous les avoirs du groupe et participation à des avoirs assujettis à la juridiction des États-Unis sont bloqués et il est en principe interdit aux ressortissants américains de se livrer à des transactions avec ce groupe. Ansarul Islam est un groupe terroriste basé au Burkina Faso. Le groupe a lancé de nombreuses attaques dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, y compris une attaque contre une escouade de l'armée qui a tué une dizaine de soldats, l'une des attaques les plus meurtrières commises contre l'armée burkinabé. Ansarul Islam a aussi lancé une attaque en février 2017 contre deux commissariats de police du pays et serait responsable du meurtre en mars 2017 d'un directeur d'école et d'un autre homme à Koufayel au Burkina Faso. L'action d'aujourd'hui informe le public américain et la communauté internationale qu'Ansarul Islam a commis ou présente un risque important de commettre des actes de terrorisme. Les désignations des terroristes terrorisme expose ou isole des organisations et personnes et leur bloque tout accès au système financier américain. En outre, ces désignations peuvent appuyer les activités de force de l'ordre des États-Unis et d'autres gouvernements. Les États-Unis restent déterminés à éradiquer tous les groupes terroristes, y compris Ansarul Islam ou qui se cache.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.